Paganini le diabolique par Jules Chancel. Niccolò Paganini naquit en Italie le 18 février 1784 dans une pauvre famille de Lazzaroni génois. Son père était trimardeur sur le port, mais comme tout Italien de cette époque qui ne chantait pas, il jouait de la mandoline et ce fut cet instrument qui fut le premier et unique jouet de l'enfant pauvre. Il joua de la mandoline comme d'autres enfants jouaient à la poupée ou au cerceau. Oh, la considérable influence d'une petite chose sur une vocation. Comment ce petit gueux, qui n'avait que des culottes trouées, arriva-t-il à se procurer à l'âge de 5 ans un violon cassé, cadeau probable de quelque chiffonnier? On ne l'a jamais su exactement. Toujours est-il que sur cet instrument retapé tant bien que mal, il charmait déjà ses petits camarades réunis autour de lui pour l'écouter. Il charma aussi sa mère, puisque la brave femme, en sortant un matin de l'église, lui dit « Je viens d'avoir une vision, mon petit Niccolò. Un ange m'est apparu qui m'annonçait que tu deviendrais un grand musicien. » Heureuse suggestion, en tout cas, qui influa certainement sur la carrière de l'enfant et constitua pour lui un précieux encouragement. Du jour, en effet, où elle lui fut faite, le petit Niccolò ne pensa plus qu'à son violon. Les efforts furent rapidement suivis de résultats, puisqu'âgé de 8 ans à peine, celui qu'on appelait déjà le petit prodige, jouait 3 fois par semaine à l'église et commençait même à être demandé dans les salons des riches marchands de la ville. L'un d'eux intervint auprès de son père en lui faisant comprendre qu'il était impossible de laisser un tel enfant en friche et qu'il devait confier l'enfant à un maître qui le pousserait. Docile, le père conduisit le gamin chez le principal artiste de la ville, un homme Corta, qui consentit à lui donner des leçons. Mais Niccolò ne voulut jamais reconnaître l'autorité d'un maître qu'il sentait inférieur. Et il continua à travailler par lui-même, essayant pendant des journées entières des traits et des difficultés jusqu'à ce qu'il les eût surmontés. À cette époque vivait à Parme le célèbre violoniste et compositeur Rolla. « Veux-tu de Rolla pour maître ? » demanda-t-on à l'enfant. « Oh oui, » répondit-il, « lui je veux bien. » Voici donc le papa et son gamin qui se présentent un matin au domicile du célèbre musicien. Celui-ci est malade, couché dans sa chambre, et on introduit les visiteurs dans une seconde pièce où se trouvait sur une table le violon du grand artiste et le manuscrit de sa dernière composition. Niccolò regarde ces objets avec une sorte de respect religieux, puis tout à coup, comme poussé par une volonté plus forte que la sienne, il osa s'emparer du violon, de l'archet, et se mit à jouer à première vue le concerto du maître. Oh là, tout étonné, entend de son lit cette musique par la porte ouverte et apparaissant à la fin du morceau, ému et ravi, il embrasse l'enfant en s'écriant « Je ne puis rien enseigner à ce garçon, mais je le fais rentrer au conservatoire de Parme. » 8 jours plus tard, Niccolò Paganini faisait partie des musiciens de la chapelle et se mettait à composer ses premières fresques que, hélas, on ne put jamais retrouver après sa mort. La renommée de Paganini s'étendait fort rapidement à la suite d'une tournée qu'il avait faite avec son père dans le nord de l'Italie. Plusieurs directeurs de théâtre lui écrivirent pour lui offrir des engagements, mais le jeune homme était d'humeur trop indépendante pour s'astreindre à un travail régulier et sédentaire. Ce qu'il voulait, c'était courir le monde. Aussi, abandonnant brusquement sa famille et sa ville, il partit pour Lucques, d'où datent véritablement ses premiers triomphes. Le succès trop facile avait complètement grisé le gamin de 15 ans, qui devint alors la proie des aigres fins. Il vécut dans un monde déplorable, il but, il joua, et tout l'argent que lui rapportaient ses concerts se dilapidait dans les tripots. De plus, cette vie crapuleuse détermina chez cet adolescent une maladie nerveuse qui contribua peut-être à exaspérer son génie, mais détruisit son équilibre et faillit le faire sombrer dès ses débuts. Ici se place une anecdote dont l'authenticité est douteuse, mais qui est trop symbolique pour que nous ne la reproduisions pas. Un jour, à Livourne, il avait perdu au jeu jusqu'à son violon et il devait donner un concert le soir. Il ne savait plus à quel saint se vouer quand un voisin de café, entendant ses lamentations, lui indiqua l'adresse d'un commerçant français fanatique de musique qui, lui assura-t-il, lui prêterait sûrement un violon. Paganini s'y rend et obtient en effet, à son grand étonnement, un superbe instrument, un Garnerius, sur lequel le soir venu il fit merveille. Aussi, quand le lendemain il alla rapporter l'instrument à son propriétaire, l'excellent homme lui répondit « Je n'oserai jamais, après vous avoir entendu, poser mes doigts sur ces cordes que vous avez su faire vibrer de façon si admirable. Gardez ce violon, mon ami, il vous appartient. » Et c'est sur ce Guarnerius que Paganini joua toute sa vie, violon du diable, affirmaient ses détracteurs, qui prétendaient avoir vu des vapeurs sataniques s'en dégager durant qu'il jouait. Mais la suite de pertes nouvelles au jeu, l'artiste exalté avait à la fois juré de ne plus jouer et de ne plus toucher à son violon. Il tint parole pendant 4 ans, et pendant 4 ans ne joua que de la guitare, sur laquelle d'ailleurs il était devenu de première force. Vers 1805, nous retrouvons Paganini à la cour de Luc. L'indépendant, le fantaisiste, semblait s'être assagi. Non seulement il avait repris son violon, mais encore il avait accepté d'enchaîner sa précieuse liberté en devenant chef d'orchestre de la princesse Bacciocchi, sœur de Napoléon Ier. 3 années, il resta fidèle à cette place, donnant chaque semaine devant la cour de Luc, qui réunissait les artistes les plus distingués, des concerts qui achevèrent de consolider sa renommée. Certains de ses biographes affirment que l'amour ne fut pas étranger à cette fidélité inattendue. N'est-ce pas en effet, pour formuler de façon discrète sa déclaration à une des grandes dames de cette cour, qu'il imagina ce tour de force qui consistait à jouer tout un duo passionné et inédit sur 2 cordes seulement, la chanterelle et le sol, la première corde devant exprimer les sentiments d'une jeune fille et la seconde prêter sa voix à un amoureux éperdu. Ce fut à la suite de cette gageure que la princesse lui demanda « Que feriez-vous, maestro, avec une seule corde ?»« Une sonate, madame. » Et pour répondre à ce défi, il composa ce Napoléon qui fut exécuté sur une seule corde devant une cour nombreuse. Il semblerait que de tels succès devaient faciliter la carrière d'un artiste si bien lancé. Mais à l'étonnement de tous, un beau jour, Paganini disparut sans que personne n'ait jamais pu dire ce qu'il était devenu, et cette éclipse dura plus de 10 ans. Les uns expliquent cette longue disparition de façon romanesque. Une grande dame, admiratrice de son talent, aurait enlevé l'artiste et l'aurait retenu prisonnier dans son château situé en pleine montagne inaccessible. D'autres, plus médisants, l'accusaient tout simplement d'avoir passé ce temps en prison à la suite d'un meurtre qu'il avait commis. Il y avait même occupé son temps, ajoutait-on, à charmer ses geôliers avec son violon qu'on lui avait laissé. On peut constater en tout cas que notre époque ne possède pas le privilège des histoires destinées à entretenir autour d'un artiste en vue un courant de curiosité. Une seule chose est certaine, c'est que Paganini ne fut pas un assassin et il le prouva de façon assez piquante. Un jour qu'il se trouvait dans un café de Milan, où il venait d'être proclamé le premier violoniste de son époque à la suite d'une série de concerts triomphaux, il entendit, à une table voisine de la sienne, des personnalités de la ville qui parlaient de lui et colportaient la légende de Paganini assassin. Celui-ci se leva, alla vers eux et leur dit « Il est coupable, messieurs, de salir comme vous le faites, sans preuve, la réputation d'un homme. Je suis Paganini, et je vais vous démontrer que l'histoire que vous rapportez si légèrement est fausse. » Puis, tirant de sa poche un certificat de police, il le mit sous le nez des bavards, en leur expliquant qu'un certain Durand, dit Duranovski, avait assassiné un curé et que cet homme s'était fait passer pour lui. Ce fut la seule allusion que Paganini ait jamais faite à la période mystérieuse de sa vie. Succédant à cette longue éclipse, commence alors une seconde période de vie intense. Après ne l'avoir vu nulle part, on le vit partout, à Turin, à Naples, à Florence, à Venise, à Rome, à Palerme. Il semblait doué du don d'ubiquité. Ce fut dans cette dernière ville qu'il épousa une fort belle comédienne, Antonia Bianchi, qui lui donna un fils, le charmant petit Aquilino, qui fut la joie de ses dernières années. Quant à la femme, il ne la garda pas longtemps, celle-ci, dans un jour de colère, n'avait-elle pas essayé de briser son violon de Crémone? Paganini ne pouvait pas rester avec une femme qui brise cet instrument sacré. Il la quitta et partit pour Rome où il obtint tel succès que le prince de Metternich lui fit promettre de venir se faire entendre à Vienne. On sait quel est l'enthousiasme des Viennois pour tout ce qui est artiste. L'accueil qui lui fut fait fut vraiment frénétique. Durant son exécution des Striges, sorte de scène fantastique dans laquelle il faisait entendre des voix de sorcières, les femmes s'évanouissaient en déclarant qu'elles avaient vu des flammes s'élever autour de son archet. Quant aux vrais artistes, ils le portèrent en triomphe à la sortie. À Vienne, durant des mois, tout fut à la Paganini. On demandait chez le Mercier des gants Paganini et des glaces Paganini au café. Nullement grisé par ses triomphes, le maître continuait à travailler, et à un de ses confrères qui lui demandait s'il avait fait de nouveaux progrès, il répondit « Je le crois, car maintenant je prends place à un orchestre à moi tout seul. » Ce fut donc en pleine apothéose qu'il apparut à Paris, où la présence de ce personnage hoffmanesque, précédé d'une si grande réputation, attira la foule à l'opéra. On se passionnait pour cet artiste au physique bizarre avec ses longs bras minces, ses grandes mains élastiques et cette face cadavéreuse entourée d'une broussaille de cheveux noirs tombant sur son cou. Cet engouement, d'ailleurs, n'existait pas seulement parmi les badauds, mais des musiciens célèbres comme Rossini, Berlioz, Meyerbeer déclaraient hautement qu'ils éprouvaient pour lui une admiration sans bornes mêlée de crainte. Personnage surnaturel, diabolique toujours. Puis ce fut l'Angleterre, où le prix des places demandées pour ses concerts fit scandale, ce qui n'empêcha pas de se ruer à ses représentations. Paganini devait être fort riche alors. Oui, si cet homme, pourtant avare, n'avait pas été en même temps un déplorable homme d'affaires. Vers 1837, de passage à Paris, il fut sollicité par un nègre fin quelconque qui, voulant exploiter son grand nom, réussit à le faire entrer dans une société de casino qui, en réalité, ne devait être qu'un tripot. Mais le gaillard, n'ayant pu obtenir l'autorisation du jeu, l'affaire sombra lamentablement, d'autant plus que Paganini, qui commença à être sérieusement malade, ne put jouer. L'artiste fut condamné à payer les entrepreneurs, la salle, tout enfin, et laissa dans cette déplorable spéculation une forte somme qui contribua à aggraver la maladie qui devait l'emporter. Paganini était donc avare, comme on l'a prétendu. Il aimait l'argent, certes, mais une dernière anecdote vous prouvera qu'il savait aussi être généreux. Il reçoit un jour la visite de Berlioz, navré et désemparé après la chute de son Benvenuto Cellini. Le maître se laisse aller avouer à Paganini les difficultés financières au milieu desquelles il se débattait. Le violoniste ne répond rien, mais le soir même, Berlioz voyait arriver chez lui le petit Achilleo qui lui remit une lettre de la part de son père. « Grand maître, disait cette missive, mon état de santé me prive du plaisir d'aller moi-même chez vous, mais je vous supplie d'accepter cette somme de 20 000 francs en paiement de la joie sans pareille que j'ai éprouvée en écoutant votre musique. Inclus une lettre pour la maison Rothschild. » Et le fier Berlioz accepta en pleurant cet hommage discret. Les dernières années de la vie de Paganini furent rendues très pénibles par la maladie qui le minait. La tuberculose, qui tantôt s'attaquait à ses entrailles et l'empêchait de faire un pas, tantôt se fixait à son larynx et lui enlevait complètement l'usage de la parole. Il mourut, soigné par son admirable enfant, le petit Achilleo, auquel il laissa une fortune rondelette de 4 millions. Il n'oublia pas non plus sa mère et sa sœur, qui bénéficièrent de rentes appréciables. Quant à son œuvre, quant à ses fameux secrets d'exécution, dont il avait promis de donner les formules après sa mort, on ne trouva dans ses papiers que quelques fragments épars de ses plus célèbres productions, dispersés dans le plus grand désordre, à travers toutes les pièces de son appartement. Ainsi disparu encore jeune, 56 ans à peine, mystérieux et véhément comme il l'avait vécu, ce personnage que l'on peut, non sans raison, qualifier de diabolique, car le génie peut être aussi bien diabolique que divin. Ainsi s'achève Paganini le diabolique par Jules Chancel.